Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Série noire à la une.
Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
Série noire.
Bonjour à vous, bienvenue dans Série noire à la une. Nouveau rendez-vous avec Série noire à la une, un podcast disponible sur retronews.fr et sur toutes les plateformes. Un rendez-vous où l'on va, comme c'est désormais l'habitude, croiser histoire de la presse et histoire du crime pour voir comment le crime fait l'objet de pages passionnantes aussi, à différentes époques passionnantes, par les mots, les récits, les manières de présenter les catégories du crime. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment la presse se fait l'écho de l'époque pour désigner la gravité, la faute morale. Croiser presse et crime, c'est comme un révélateur des mœurs, des manières de voir, du sens commun d'une époque. Vous pouvez réécouter et partager des épisodes précédents de ce podcast où nous avons abordé par exemple la bande d'Apache dans le Paris de 1900, Germaine Berton, l'anarchiste qui voulait venger Jaurès. On a aussi parlé de la Commune, de la bête du Gévaudan, de la révolte de Marguerite en Algérie en 1901. Et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la série. Aujourd'hui, retour à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution française. Nous allons parler des crimes de la terreur.
Série noire à la une.
Il y a pour un gouvernement deux manières de se faire craindre. L'une qui se borne à surveiller les mauvaises actions, à les menacer et à les punir de peines proportionnées. L'autre consiste à menacer les personnes, à les menacer toujours et pour tout, à les menacer de tout ce que l'imagination peut concevoir de plus cruel. Les impressions qui produisent ces deux méthodes sont différentes. L'une est une crainte éventuelle, l'autre est un tourment sans relâche. L'une est un pressentiment de la terreur qui suivrait le crime, l'autre est la terreur même qui s'établit dans l'âme. Malgré le sentiment de l'innocence, l'une est une crainte raisonnée des lois, l'autre est une crainte stupide des personnes. Les caractères de la terreur méritent d'être remarqués. Terreur veut dire tremblement. La terreur, donc, est un tremblement habituel, général, un tremblement extérieur qui affecte les fibres les plus cachées. C'est l'ébranlement de toutes les forces physiques, la commotion de toutes les facultés morales, le dérangement de toutes les idées, le renversement de toutes les affections. C'est une véritable désorganisation de l'âme humaine qui, ne lui laissant que la faculté de souffrir, lui enlève dans ses maux et les douceurs de l'espérance et les ressources du désespoir. La terreur, étant une affection extrême, n'est plus susceptible ni de plus ni de moins. D'ailleurs, plus on rend la vie odieuse, plus il faut rendre la mort affreuse pour la faire craindre. L'idée de la ciguë suffit d'abord pour effrayer l'imagination. Ensuite, il faut, pour la frapper, joindre à l'image de la mort celle de l'effusion du sang. Ensuite, il faut environner la victime d'autres victimes et les faire tomber les unes devant les autres. Ensuite, il faut en étendre le nombre et faire voir à un homme la mort des 50 autres avant de la lui donner. Ensuite, assortir les victimes avec un art cruel, faire mourir un artiste vertueux avec une sangsue du peuple, un homme de bien avec le plus vil scélérat. Enfin, pousser le raffinement jusqu'à tuer le père après son enfant, l'époux après sa femme, le frère après sa sœur. Le système de la terreur suppose le pouvoir le plus concentré, le plus approchant de l'unité, et tend nécessairement à la royauté. Citoyens, tout ce que vous venez d'entendre n'est qu'un verbeux commentaire de ce que Barrière a dit à cette tribune de la terreur le lendemain de la mort de Robespierre. Je n'y ajoute qu'une réflexion. Ce système a été celui de Robespierre. c'est lui qui l'a mis en pratique, à l'aide de quelques subalternes dont les uns ont péri avec lui et dont les autres sont ensevelis vivants dans le mépris public. La Convention en a été victime, jamais complice. La nation charge Robespierre des crimes qui en ont été l'effet, puisqu'elle lui donne maintenant le nom de robespierrisme. Les ressentiments publics et particuliers sont satisfaits par la punition de ce monstre. La clôture de la boucherie peut donc être définitive pour tous les partis.
C'est donc paru dans le Républicain français le 30 août 1794. Il s'agissait donc du discours de Jean Lambert Tallien, des extraits de son discours à l'Assemblée. Un discours qui nous éclaire déjà sur les termes et les enjeux. Nous allons parler avec nos trois invités. Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, auteur notamment de Robespierre, la fabrication d'un monstre chez Perrin en 2016, La Terreur, vérité et légende chez Perrin en 2017, Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État chez Belin en 2018. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Il y a aussi avec nous Suzanne Lévin, docteur en histoire moderne, chercheuse affiliée au laboratoire d'IPAC à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avec nous aussi Corinne Gomez-Lecheventon, vous êtes ingénieure d'études au CNRS Sorbonne Université. Avec vous, comme avec Suzanne Lévin, nous nous arrêterons notamment sur le procès Carrier et les noyades de Nantes. Bonjour à vous.
Bonjour à vous tous.
Merci de nous avoir rejoints donc pour cette conversation autour des crimes de la terreur. Alors la terreur, c'est cette période de la Révolution française constituée entre 1793 et 1794, caractérisée par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire avec le comité de salut public et le comité de sûreté générale. La terreur est désignée parfois comme une tyrannie, avec le rôle essentiel de Robespierre, parfois comme un moment de résistance aussi au mouvement contre-révolutionnaire. Et le bilan humain de la terreur fait objet de controverses. Alors même que les crimes de la terreur, et je mets là des guillemets, dans la nature comme dans leur degré de violence, font l'objet de débats historiographiques, le crime de la terreur, l'existence même de ces crimes, ont fait l'objet de constructions, peut-être bien, par la presse, on va voir ça, cette presse pléthorique pendant la Révolution française qui était un mode de circulation assez essentiel des idées pendant cette période, ce sera un point de départ de notre conversation. Mais d'abord, à propos de la lecture qu'on a entendue à l'instant, qui était Jean Lambert Tallien, avec les mots duquel on a démarré? Jean-Clément Martin, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui vient d'être lu et dit?
Oui, un jeune homme absolument impressionnant par la rapidité de sa carrière, qui a été pendant quelques mois, quelques années, un des secrétaires de Tallien, qui a joué un rôle important dans la Commune, qui a certainement pris part aussi aux massacres ou à l'organisation des massacres de septembre 1792, avant de devenir très jeune député, malgré Robespierre, c'est un point important, à la Convention, d'être envoyé comme représentant en mission, notamment à Bordeaux, où à Bordeaux, il se fait remarquer par les violences qu'il commet contre les opposants contre-révolutionnaires, et puis aussi, parce que c'est pas du tout une anecdote, par la liaison qu'il a avec la très jeune et très belle Teresa Cabarrus, que Robespierre certainement va faire envoyer en prison à la fin de l'été 1794, et Teresa Cabarrus risque la peine de mort. Tallien, déjà opposé à Robespierre, va profiter en quelque sorte de cette situation pour participer au complot qui abat Robespierre le 27 juillet 1794. Et surtout, alors, ce qui me semble important, parce que je crois qu'il faut mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est que le discours de Tallien, c'est un discours qui est pour moi un coup d'État. C'est-à-dire qu'il a participé aux violences, il les a organisées, il a été réprimé par Robespierre pour avoir commis ces violences, et voilà qu'un mois après l'exécution de Robespierre, il a le culot, il n'y a pas d'autre mot, le culot de dire « ce n'est pas moi, ce ne sont pas tous les gens qui étaient avec moi qui avons commis toutes ces atrocités, mais non, c'est Robespierre qui avait organisé ce que Tallien invente littéralement, ce système de terreur, en disant « eh bien tout ça, ce sont des crimes et nous n'avons pas mis les mains dans le sang ». l'instant, ce qui est quand même absolument hallucinant. Le résultat quand même, c'est que, un, il va rester au pouvoir, et que, deux, vous venez de dire tranquillement que, finalement, la terreur avait existé de 1793 à 1794, qu'elle avait commis sans doute des crimes dont il fallait rendre compte aujourd'hui. Mais tout ça, c'est de l'invention. Et chapeau italien, bravo, on est déjà là dans la preuve que, finalement, l'assassin revient sur les lieux du crime et par-dessus le marché, les enjolive.
Ah non seulement il les enjolive, mais vous dites qu'il invente. En fait, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui du storytelling, en quelque sorte, il crée un... Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le sens commun historique, je ne parle pas des historiens, mais ce qu'on a en tête, tout un chacun, quand on réfléchit à la Révolution, est-ce que c'est Tallien qui nous l'a inscrit dans la tête, l'idée même de terreur ?
Ah oui, oui, absolument, parce que le mot terreur existe depuis très longtemps. Le mot terreur est, tout au long de la Révolution, le principe de gouvernement que les révolutionnaires ne veulent pas adopter. Puisque la terreur est, pour les révolutionnaires, l'œuvre du despotisme, des tyrans, des rois. Donc, hors de question d'exercer la terreur. Mais à partir de la fin 1792, du milieu 1793, les sans-culottes et une partie des jacobins réclament qu'il y ait une terreur exercée contre les ennemis. Et il va y avoir un jeu en septembre 1793 entre les montagnards et les sans-culottes pour dire, bon, on va organiser des armées révolutionnaires, on va vous donner les moyens d'exercer une terreur, mais on ne mettra pas de terreur à l'ordre du jour. Là, les montagnards passent à côté d'une façon absolument incroyable. Et pour faire bref, il va y avoir des oppositions systématiques à tout système de terreur, à plusieurs reprises, jusqu'à la veille de son exécution. Robespierre dira qu'il ne veut pas de système de terreur. Et alors, c'est vrai qu'en février 1794, il aura tenu un discours très compliqué. Bon, mais qui dit en gros que l'exercice de la terreur fait partie des privilèges de ceux qui sont capables d'organiser la vie politique. C'est ce qu'il appellera le despotisme de la liberté. Dit autrement, j'ai le droit, moi, avec la Convention, de contrôler la violence et je vous interdis à vous tous de l'exercer librement. Dit autrement, il canalise la violence. Bon. Mais en attendant, il refuse effectivement le système de terreur. Et tout ça renvoyé à l'inventeur, puisque quand Robespierre est mis à mort, il est mis à mort pour avoir tué les sans-culottes, Hébert, et pour avoir mis à mort les indulgents, Danton, et donc d'un seul coup, tout ce qui vient d'arriver est incompréhensible pour les gens. Personne n'arrive à comprendre qu'il y ait eu tous ces coups d'État successifs, toutes ces éliminations de gens qui étaient puissants un jour et dénoncés comme contre-révolutionnaires le lendemain. C'est totalement incompréhensible. Donc, on va dire que Robespierre est l'inventeur, le profiteur de cette terreur, qu'il a commis tout un tas de crimes, au passage inventés, hein. Mais d'un seul coup, reconnaissons à Tallien qu'il donne une compréhension de ces événements qui étaient incompréhensibles et que ça arrange tout le monde, parce que ceux qui avaient participé à la chose disent « c'est pas moi ». Bon, ceux qui avaient suivi sans rien comprendre disent « ah, enfin on comprend ». Eh bien voilà, il y a une explication, la terreur a dévoré ses enfants et la terreur devient l'expression de la liberté qu'il faut contrôler. Vous aurez compris que je cite Hegel, tout simplement, la phénoménologie de l'esprit. Les crimes d'un seul coup servent à la philosophie générale sur laquelle nous vivons toujours.
On comprend que Tallien offre une lecture, avec cette invention dont vous parlez, mais il offre une lecture, une manière de comprendre. Suzanne Lévin, quel serait le rôle, puisque là on est là pour parler des crimes réels ou construits, mais aussi de la presse. Et comment la presse de l'époque, la presse de la Révolution, c'est pléthorique, c'est foisonnant, ce sont parfois de simples feuilles, tenues parfois par une seule personne, parfois évidemment c'est plus important que ça, mais et ce sont des choses qui sont plus ou moins éphémères, il faut le dire aussi. Comment la presse relais ou pas, ou se fait l'écho de cette ligne de front, finalement, qui se dessine à travers ce récit clair et inventé de Tallien.
Eh bien, la presse a vraiment un rôle très important de relais à ce moment-là. Si on remonte un peu, pour faire un peu très rapidement l'histoire de la presse révolutionnaire, il y a dès 89 une véritable explosion. Il y a au moins 250 nouveaux titres en 89, puis plus de 400 en 90. Et on compte plus de 1300 sur toute la période. Et à ce moment-là, la censure royale existe toujours officiellement, mais elle n'arrive pas à endiguer les flots de nouveaux titres qui apparaissent et qui, pour la plupart, sont éphémères, mais il y en a aussi qui survivent pendant plusieurs années. Mais de toute façon, en août 89, évidemment, on a la Déclaration des droits qui reconnaît le droit à la liberté de la presse. Mais dès ce moment-là, en fait, il y a aussi cette question à des limites à la liberté de la presse, des abus potentiels. C'est même inscrit dans le texte même de la déclaration. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et donc on a énormément de mal à déterminer ces cas, justement, tout au long de la période. Et s'il n'y a jamais de réintroduction de la censure d'Ancien Régime, il n'y a jamais à aucun moment la censure préalable, c'est-à-dire on n'a pas besoin de demander la permission d'imprimer. Par contre, on peut être poursuivi pour ses écrits, et c'est ce qui arrive notamment aux journalistes tant patriotes que royalistes sous la Constituante, puis ensuite sous la Convention et le gouvernement révolutionnaire. Il y a un certain nombre de cas célèbres des journalistes qui sont condamnés par le tribunal révolutionnaire, pas à proprement parler pour leurs écrits en tant que tels, mais disons que c'est une pièce à conviction versée dans le dossier pour prouver que ces journalistes seraient des conspirateurs. Donc, les exemples les plus célèbres, Hébert, Camille Desmoulins, ne sont pas que des journalistes, mais évidemment, c'est le rôle de journaliste qui compte énormément dans leur condamnation. Et donc, il y a une sorte d'ouverture qui a lieu après Thermidor. Mais si on parle parfois d'un retour à la liberté illimitée de la presse, c'est vraiment un peu plus compliqué que ça, parce que il devient possible désormais de parler justement de cette période qui vient de passer, de la période du gouvernement révolutionnaire, et justement de dénoncer le gouvernement révolutionnaire, de dénoncer ce qui est justement construit comme ces crimes, réels ou fantasmés d'ailleurs. Mais en revanche, il y a, pas tout de suite, mais à mesure que la réaction s'avance, et il y a aussi un retour un peu à contre les journalistes qu'on accuse d'être du côté des terroristes. Donc l'exemple le plus célèbre, ce serait Babeuf, qui est accusé d'outrage à la représentation nationale, justement par Tallien. Et donc il est arrêté, et son journal, le Tribun du Peuple, est saisi par la police. Et donc on peut dire qu'il y a une libération certaine de la parole, justement, contre le gouvernement révolutionnaire, contre toute cette période qu'on va appeler la terreur par la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un retour à une véritable liberté illimitée de la presse.
Et il y a ces feuilles, ces pamphlets qui sont nombreux, qui ne sont pas à proprement parler des journaux, mais ce sont des textes qui circulent. Est-ce qu'on peut dire, Corinne Gomez, que les pamphlets servent l'une ou l'autre partie? Est-ce qu'il y a une lutte de communication, pour le dire de cette manière-là, de manière anachronique, à travers les pamphlets, à travers des regards, où il y a des pamphlets qui sont des lieux aussi des espaces où on se moque, où on s'adresse directement, où on... Voilà. Est-ce qu'on peut en parler comme ça, de ces pamphlets comme arme de communication?
Alors oui, on peut en parler comme arme de communication, et puis il faut aussi rappeler que dans la fin du discours de Tallien, dont vous avez parlé tout à l'heure dans Le Républicain français, hein, un des derniers paragraphes est sur la liberté laissée aux écrivains qui doivent être libres de pouvoir contester ce qu'ils veulent, hein, puisque c'est un des moyens propres à lutter contre la tyrannie. Et ça, c'est très important. Et effectivement, on se rend compte assez rapidement, quand on regarde tous ces pamphlets ou tous ces écrits qui sortent, que le lien entre ces députés, le groupe de Tallien et un certain nombre de pamphlétaires ou de libellistes est assez évident. Hein. Et là, je pense en particulier à la queue de Robespierre, évidemment, hein, au pamphlet qui est publié le 9 Fructidor, hein, c'est-à-dire le 26 août 1794, qui atteste en fait le début de l'offensive pamphlétaire contre les Jacobins, qui va rapidement se retourner contre Carrière. Alors je rappelle que Maigle Latouche, hein, est un journaliste qui est très lié au groupe de Tallien, qui fut d'ailleurs un temps son secrétaire. Hein. Donc on peut dire que ce premier pamphlet marque le début des hostilités, hein, j'allais dire. Alors il est suivi évidemment par d'autres journalistes dans la presse. Je pense évidemment à Fréron, dans l'Orateur du Peuple, hein, qui dès le 25 Fructidor, c'est-à-dire le 11 septembre, lance finalement la campagne de dénonciation contre Carrier, dont pour l'instant on avait assez peu parlé. Alors pourquoi cette offensive pamphlétaire ? Alors évidemment, il y a la survie des députés à la convention qui sont en place, mais il y a aussi la préparation, là, début septembre, du fameux premier procès de Nantes, c'est-à-dire le procès des Nantais. Et c'est ça qui va exacerber la production pamphlétaire et qui va faire se retourner finalement des accusations contre les Jacobins en général, qui vont être plus ciblées contre le comité révolutionnaire de Nantes qui fera l'objet d'un deuxième procès, puis évidemment contre Carrier qui va devenir une figure, j'allais dire, de bouc émissaire, qui va permettre de canaliser à la fois la production pamphlétaire, mais aussi de canaliser la responsabilité des violences ou des massacres qui ont eu lieu. Il va devenir à lui tout seul l'emblème de cette terreur provinciale. Et finalement, quelque part, le pendant de Robespierre.
Parce que justement, sur le cas de Jean-Baptiste Carrier, donc, pour resituer, donc, il est en mission, si je ne me trompe pas, sous l'égide de la Convention nationale, dans l'Ouest. Il est envoyé pour contrer les révoltes vendéennes. Donc ce procès, vous dites... Hein, quand même, il y a eu des crimes, il y a eu des noyades de Nantes, donc en fait, pour la plupart des 8 000 à 9 000 personnes, c'est ce qu'on dit, hommes, femmes et enfants, majoritairement donc des Vendéens faits prisonniers, donc à Nantes, qui ont été morts noyés ou fusillés ou morts du typhus, pour être très clair. Et effectivement, Jean-Baptiste Carrier fait office de bouc émissaire, parce qu'il y a eu d'autres massacres de ce type, notamment Fouché, qui est futur ministre de la police de Napoléon, qui avait coordonné, lui, des massacres du côté de Lyon. Ça lui sert plutôt pas mal qu'on focalise l'attention sur Jean-Baptiste Carrier et sur ce qu'il a fait. Jean-Clément Martin, vous vouliez intervenir.
Là, c'est un des points absolument essentiels de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est que ce qui se produit à partir de septembre-octobre 1794, c'est que tous les gens qui ont participé effectivement aux répressions à Bordeaux, à Lyon et à Marseille, nommément Barras, Tallien, Fouché, vont faire porter le chapeau, si je puis dire ça comme ça, à Robespierre d'abord, et puis ensuite, ils vont charger Carrier, qui est un personnage bizarre, mais ce personnage se retrouve marginalisé dans la convention et il y a quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est que Babeuf, le futur Gracchus, mais qui s'appelle encore François Noël dans l'automne 1794, a des comptes à régler avec Robespierre qui l'avait envoyé en prison et il est à l'évidence payé par Fouché pour produire un pamphlet. On parlait des pamphlets tout à l'heure. Et là, voilà un pamphlet absolument fondateur qui aujourd'hui encore est toujours lu, toujours cité pour dénoncer les crimes de la Convention dans l'Ouest. C'est Babeuf qui invente cette idée de populicide en Vendée, qui aurait été commandé par Robespierre et exécuté par Carrier. Alors quand on sait que c'est Robespierre qui a fait revenir Carrier à Paris en février 1794, qui devait le faire guillotiner et que Carrier a participé au complot contre Robespierre, imaginez que Carrier et Robespierre sont de mèche, c'est idiot. Sauf que ça marche, voilà. Et que ça marche toujours aujourd'hui et qu'encore aujourd'hui, on estime que le populicide a été inventé par le couple Robespierre Carrier, et je cite quand même le titre d'une émission de télévision récente, Robespierre, le bourreau de la Vendée. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est absolument essentiel, et on comprend qu'ensuite le malheureux Babeuf se soit rendu compte qu'il a été un peu instrumentalisé, bon, et il va en mourir, mais je voudrais aussi insister sur le fait que non seulement on est dans la presse, mais on est bien dans des écrits, et on est dans un moment où le roman noir, le mélodrame, le roman gothique, toutes les atrocités possibles commises sur des malheureuses victimes, de préférence des jeunes filles, c'est la mode de l'époque, et qu'on comprend bien que tout ça trouve un écho absolument considérable dans l'opinion. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est vraiment de la culture collective, populaire. Et nous en vivons toujours.
Extrait des Annales patriotiques et littéraires de France, du 6 Frimaire en 3, 26 novembre 1793, qui relate la séance de la Convention nationale du 3 Frimaire en 3, dernière intervention de Jean-Baptiste Carrier avant le vote sur sa mise en accusation. C'est donc lui qui parle.
C'est ici qu'on m'a insulté, au sein de l'Assemblée. Je me plains de ne pouvoir faire entendre ici ma voix. On ne m'a pas entendu toutes les fois qu'on a murmuré. Et l'on a murmuré toutes les fois que j'ai parlé. La postérité saura qu'il fut fait dans le temps à Nantes une proclamation pour inviter les citoyens à venir déclarer quels étaient les auteurs des atrocités commises dans cette commune et que toutes les déclarations ont accusé le comité révolutionnaire sans qu'un seul individu m'ait nommé. Les Nantais n'ont vociféré contre moi que depuis le journal infâme de Fréron. Il a répandu contre moi toutes sortes de pamphlets parce que j'ai provoqué son expulsion des Jacobins et celle de Thalien. Oui, citoyens, ma persécution a commencé avec ce journal qui a calomnié les meilleurs patriotes.
Lambert, sculpteur à Nantes, a été témoin des noyades exécutées de jour et de nuit. « J'ai vu, a-t-il dit, les rives de la Loire jonchées de corps morts. J'ai vu sur ces rives des cadavres d'enfants de 7 à 8 ans. J'ai vu le cadavre d'une femme toute nue qui serrait encore son enfant dans ses bras. J'ai vu des cadavres nus de jeunes filles et de jeunes garçons. » Fratel, marchand voilier à Nantes, a aussi parlé de fusillades et de noyades. Il a aussi gardé un enfant de l'entrepôt, malgré la défense du comité. Chaud, interpellé de déclarer s'il a connaissance de cette défense, a répondu qu'il ne s'en rappelle pas, qu'il s'est transporté plusieurs fois chez Carrier pour l'engager à accorder aux citoyens des enfants de l'entrepôt, qu'il peut cependant se faire qu'il l'ait signé.
Ça, c'est issu du Mercure Universel 9 novembre 1794. On sent, entre l'une déclaration et celle-ci, des incertitudes, de la fébrilité. Qui dit vrai? Où est la vérité? Comment on s'en sort de ça quand on est historien, justement, Corinne Gomez?
Alors, ce qui est très compliqué dans le cas des dénonciations contre Carrier ou dans le cas des témoignages sur les noyades à Nantes, c'est qu'il faut quand même rappeler que, en gros, ces noyades ont lieu durant l'hiver 93-94 et que finalement, ce sont les procès et les enquêtes au moment du procès des Nantais puis du procès du comité révolutionnaire de Nantes auquel sera adjoint Carrier que les témoignages sont relevés. Donc, c'est une année plus tard. Et c'est aussi, évidemment, après Thermidor, évidemment, après la création ou l'invention par Thalien du système de la terreur, hein, de cette espèce de fiction. Mais attention, fiction, ça ne veut pas forcément dire fictif. Donc, en fait, on va à Nantes, on se rend compte qu'il y a à la fois une enquête à Nantes et à la fois une enquête à Paris. On a 240 témoins qui vont être au procès du comité révolutionnaire de Nantes. Des témoins qui sont à la fois des gens qui ont pu participer aux faits à Nantes, mais aussi beaucoup de témoins qui ont entendu dire ou parce que leur voisin leur a dit ou qui savent que. Enfin, voilà, beaucoup de témoignages indirects. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de noyades. Alors, j'aurais tendance à dire 4 en particulier qui sont attestées par plusieurs témoins. Après, le reste, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus de oui-dire, on va dire. Alors, effectivement, sur la question des noyades, on estime que ça peut être de 4 à 6 si on recoupe plusieurs témoignages. On peut aussi écouter Philippe de Trangioli, l'ancien accusateur public du tribunal criminel et révolutionnaire de Nantes, qui fait partie du premier procès puisqu'il est accusé avec les Nantais en septembre 1994 de fédéralisme, qui lui estime à 23 le nombre des noyades. Donc, en gros, pendant la période septembre 1793, on va dire février 1794. Alors, quelle est la réalité de tout ça? À vrai dire, je crois que personne ne sait aujourd'hui. On peut en attester quelques-unes. On peut attester un certain nombre de pratiques. Bon, alors évidemment, tout le monde pensera au mariage républicain, au fait d'attacher ensemble un jeune homme et une jeune fille nue et puis de les noyer ensemble. On peut aussi penser au mariage civique, dont on parle assez peu, c'est-à-dire que le bateau s'ouvre et les gens vont se noyer et les membres du comité révolutionnaire leur donnent des coups de sabre sur la tête. Ça s'appelle un mariage civique. Certes, ces pratiques ont sans doute existé, à mon avis, de façon marginale. Elles sont d'ailleurs pas reprises systématiquement dans les dépositions au procès, mais tout ça, ça contribue à la fabrique d'un contre-imaginaire, on va dire, ou d'un imaginaire de la terreur qui est effectivement largement propagé par la presse et par les pamphlets.
Propagé par la presse et les pamphlets, mais dans le sens inverse, est-ce que le procès Carrier aurait eu lieu sans la presse ?
Non.
D'accord.
Je crois que la réponse était assez claire. Non, je crois qu'on en a vraiment fait un fil conducteur quand on parle de la presse et des pamphlets à partir du premier procès des Nantais, donc la préparation fin août, début septembre 1794. Carrier, c'est finalement la réponse à la question, puisqu'on a pu Robespierre sous la main, puisqu'on l'a guillotiné en juillet. En fait, Carrier, ça va être la réponse pour un certain nombre de députés qui ont eux-mêmes des choses à cacher et qui veulent surtout pas qu'on les mette sur le devant de la scène.
Suzanne Lévin, vous pouvez nous parler de Prieur de la Marne, qui en quelque sorte a pris la suite de Jean-Baptiste Carrier, qui était représentant en mission montagnard et ancien membre du Grand Comité de Salut Public, qui est d'abord encensé et ensuite accusé de terreur à son tour. Il y a des endroits où il ne faut pas aller à une certaine époque.
Prieur de la Marne, c'est justement celui qui va remplacer Carrier à Nantes. Et il est déjà sur les lieux dans l'Ouest depuis octobre 1993. Lui, il est membre du comité de salut public, même si on peut dire qu'au fil du temps, il a tendance à être plutôt un représentant ordinaire, puisqu'il n'a pas pu participer aux délibérations du comité. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il a participé à la répression de la Vendée. Il a fait nommer des commissions militaires qui avaient pour vocation de juger les rebelles, pris les armes à la main. Mais après, il a quitté les lieux. Il a été envoyé dans le Morbihan pour organiser le gouvernement révolutionnaire, épurer les administrations, etc. Et donc, il n'est pas sur les lieux au moment des noyades, au moment de la plupart des massacres. D'ailleurs, son bilan sur la Vendée, c'est un peu compliqué parce que avec ça, il a aussi signé un arrêté à un certain moment pour dire que voilà, toute personne, homme, femme ou enfant, qui traverserait la Loire sans armes sera regardée comme un réfugié, mais en même temps traité en suspect parce que, comme il écrit avec ses collègues, il est à présumer que le plus grand nombre de ces malheureux ont participé directement ou indirectement à la révolte. Politiquement, à ce moment-là, il n'est pas possible de préconiser l'amnistie, mais il y a quand même cette façon de faire un peu, si on peut dire comme ça, une amnistie individuelle des anciens Vendéens qui aimeraient quand même rejoindre la République, en quelque sorte. Mais en ce qui concerne la réputation de Prieur sous la réaction thermidorienne, en fait, c'est très curieux. On a des textes qui viennent justement de ce procès du comité révolutionnaire nantais. Le comité révolutionnaire est accusé. Et ce que raconte ce comité révolutionnaire, en fait, c'est qu'ils ont agi sous l'influence des représentants du peuple sur place, et que donc ça dépend vraiment du caractère, de la personnalité de ces représentants. Et donc, si je peux citer, ça vient du bulletin du tribunal révolutionnaire, ils disent « Nous pouvons donc avancer avec vérité en résumant notre conduite sous les différents représentants du peuple envoyés en mission dans le département de la Loire inférieure, que nous nous sommes comportés avec sagesse et fermeté sous Prieur de la Marne, qu'ensuite on nous a vus inflexibles et révolutionnaires avec Hans et Franck Castel, enfin ultra-révolutionnaires jusqu'aux excès condamnables, nous l'avouons, sous la verge de fer du redoutable Carrier. » On voit vraiment que c'est Carrier qui joue le rôle de bouc émissaire, justement. Et que Prieur, à ce moment-là, est vu comme le bon représentant en mission, si on veut. Mais à mesure, encore une fois, que la réaction s'avance, finalement, on considérera qu'il n'y a plus de bons représentants en mission En fait, ce sont tous des proconsuls sanguinaires et corrompus. Et donc, Prior lui-même va en pâtir plusieurs mois plus tard. Par contre, par rapport à la répression en Vendée, mais plutôt de la répression des fédéralistes et aussi des colons esclavagistes pendant sa mission dans les ports, notamment à Brest. Et donc, à un certain moment, il y a un journal qui est apparu après Thermidor et qui s'appelle, voyons, l'ami des principes, ou Annales républicaines de Brest, qui justement va accuser Prior d'avoir continué la terreur après le 9 Thermidor, comme si il aurait dû être évident à tout le monde dès ce moment que voilà, la terreur c'est fini, c'est une rupture qui aurait dû être évidente, alors qu'à l'époque, pas du tout.
Sur cette histoire de limite, justement, tout d'un coup, au 9 Thermidor, évidemment, on comprend après coup que c'est encore une fois l'idée de la construction d'une date qui tombe, et ça contribue, évidemment, à cette image, à cette imagerie même de la terreur comme d'une période avec un début et une fin précise, à une date comme ça, comme une date butoir. Et justement, sur cette question de la postérité de la terreur et de son imagerie, je voudrais lire un extrait de la pièce de Victorien Sardou, Thermidor. C'est-à-dire, on fait un saut d'un siècle. C'est paru dans Le Gaulois le 27 juillet 1894. Qu'on retrouve évidemment aussi sur retronews.fr.
J'ai parcouru la ville pleine d'immondices que l'on ne prend plus la peine de ramasser. J'ai vu les passants aller et venir à leurs affaires ou leurs plaisirs, avec la préoccupation constante, dès qu'ils s'abordent, de ne pas dire un seul mot de ce qu'ils pensent. Et sur tous les murs, des affiches de vente. À toutes les portes, des mobiliers à l'encan. Les Tuileries, plantées de pommes de terre, les Champs-Élysées, où l'on retrouve la guillotine jusque dans la baraque de Polichinelle, désert le jour et le soir peuplé de vagabonds. Le Palais Royal, encombré de filles demi-nues, dont quelques-unes pourraient encore jouer à la poupée. Et partout des mendiants, des enragés, déguisés en galériens avec leurs cheveux gras, leurs bonnets rouges, leurs carmagnoles et leurs gourdins. Dès la tombée du jour, les boutiques fermées, les places vides. Pas une voiture. Les théâtres seuls peuplés de spectateurs inquiets, cherchant à s'étourdir sur les soucis du lendemain. Les rues silencieuses et sombres. À chaque pas, une patrouille exigeant la carte civique. Et pour tout bruit, les voix des crieurs hurlant la liste des gagnants du jour à la loterie de Sainte-Guillotine. Car tous les jours, à 4 heures, 6, 7 charrettes suivent les quais, menant à la boucherie. Hommes, femmes, vieillards, jeunes filles, enfants. Avant-hier encore, un de 15 ans. Et autour des victimes, braille, chante et danse des femmes ignobles et des insulteurs à 40 sous par jour, la claque de la guillotine. Et c'est Paris, cela, notre beau, notre glorieux Paris, le Paris du 14 juillet, le Paris de la Fédération.
Voilà un texte d'une pièce qui aurait inspiré à Clémenceau la phrase suivante: la révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. Une manière aussi d'accréditer l'idée de la terreur un siècle plus tard, cette imagerie est arrivée jusqu'au spectateur de cette pièce de Victorien Sardou, et finalement c'est aussi l'idée de comment une image, un récit, un storytelling, une simplification, une grille de lecture, aussi arbitraire soit-elle, passe à travers les âges, Jean-Clément Martin.
Oui, alors si vous me permettez, je pense qu'il faut effectivement revenir à cette pièce qui a été jouée le 24 janvier 1891 et qui entraîne effectivement, et vous avez eu parfaitement raison de le rappeler, l'intervention absolument vigoureuse de Clémenceau qui va effectivement inventer cette formule, la révolution est un bloc, et il continuera même en disant, c'est que cette admirable révolution par qui nous sommes n'est pas finie, c'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs, c'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Bon, et là, c'est vraiment une formulation extraordinaire, d'autant plus extraordinaire quand on sait quand même que Clémenceau n'avait pas été partisan de la Commune, qu'il avait des démêlés avec les autres républicains. C'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, à la fois étonnant et compréhensible. Si on redit les choses autrement quand même. En 1794, c'est une partie de la Convention, la partie majoritaire de la Convention qui dit « une minorité a fait la terreur bon. ». Et tout le monde oublie. Bon. On fait comme si de rien n'était pendant 5 ans, et on accuse aussi les opposants d'avoir créé la terreur blanche en 1815 et en 1795 pour dire que finalement, entre la terreur de Robespierre et la terreur des royalistes, il y a une espèce d'équivalence. Bon. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui me frappe absolument, c'est que on ne s'interroge jamais, et pour cause, sur le début de la terreur. La terreur, on sait quand elle est théoriquement terminée. Le 9 thermidor, tout le monde descend, et la terreur, il n'y a plus de terreur. Bon, c'est au moins ce qu'on dit. Mais on ne dit pas quand est-ce qu'on est monté dans le train, parce que tout le monde est monté dans le train depuis le début. Si bien que, pour un certain nombre de gens, moi je dirais encore aujourd'hui, la terreur a commencé le 14 juillet 1789 quand même. Et donc il va y avoir là un gigantesque embarras des partisans de la Révolution à dire « Il faut admettre qu'il y a eu des divisions dans le camp des Républicains et il faut admettre qu'il y a eu cette manipulation » et ça traduit aussi le fait que quand on est, grosso modo pour faire bref, partisan de la Révolution, on ne sait pas comment parler de la violence de la Révolution. Ce qui permet aux opposants de dire « c'est toute la Révolution qui est violente ». Et donc, il a fallu attendre quand même, jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour qu'on essaie de détricoter un peu tout ça. Et il a fallu attendre quand même la fin du XXe siècle pour qu'on essaie aussi de séparer et d'expliquer historiquement, parce que si la Révolution a commis des crimes, sans rentrer dans trop de polémiques. Bon, moi je dirais quand même que la Révolution a commis beaucoup de violence, mais qu'au même moment, l'Empire napoléonien a commis quand même des crimes, notamment dans la guerre d'Espagne ou la guerre en Italie, qui mériteraient quand même d'être comparés à ce qui s'est passé en France 10 ans plus tôt. Alors, on va arrêter la polémique, hein. Les comparaisons sont toujours embêtantes, mais il faut quand même bien voir que nous sommes tellement obnubilés par les crimes de la Révolution, que ça arrange les mémoires nationales et que ça permet ces grandes manifestations d'enthousiasme et de défense et de critique qui nous occupent tout le temps quand même.
Voilà, et qui font l'objet encore, on l'a compris, d'un travail d'historien et d'historienne. Quant au crime de Napoléon, j'imagine qu'on en fera peut-être l'objet d'une prochaine série noire à la une. Mais bref, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres voiles à lever à ce moment-là. Merci à vous, à tous les trois, Jean-Clément Martin, Suzanne Lévin et Corinne Gomez Le Chevanton. Merci de nous avoir éclairés sur la question, je mets les guillemets, des crimes de la terreur. Voilà, c'est la fin de ce 7e numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de RetroNews.fr, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de RetroNews, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Julien Morel. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une.
Série Noire à la Une.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.